Je,
tu,
il,
nous,
vous.
Expression jazz.
60 minutes of jazz.
Une émission pour tous les jazz.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver dans Expression Jazz pour un second épisode consacré à John Coltrane. Alors ce n'est pas tout à fait le Coltrane que l'on connaît, celui de Giant Steps ou de Love Supreme que l'on va écouter, puisque au cours de ces numéros, on explore une période beaucoup moins connue du saxophoniste, 1956-1958. Pendant ces quelques mois, Coltrane a réalisé de nombreuses sessions, parfois comme leader, le plus souvent comme accompagnateur pour le compte de Prestige, sa maison de disques. Et particularité de ces disques, une grande partie d'entre eux, ils vont sortir au compte-gouttes au cours des années 60 lorsque le saxophoniste devient célèbre. C'est donc ce Coltrane avant Coltrane qui nous intéresse avec son répertoire marqué par les ballades, les standards, ses classiques composés pour Broadway ou Hollywood pendant les années 20 et 30, ces chansons populaires qui ont formé l'oreille du jeune Coltrane. Mais toutes les musiques ont compté dans ces années de formation, le blues rural, le blues des villes, le jazz afro-cubain naissant, les grands orchestres du swing ou les petits groupes de Dixie. Et c'est pourquoi dans ce numéro, on fera aussi un petit détour par l'orchestre de Benny Goodman et celui de l'original Dixieland Jazz Band avec deux titres qui ont marqué le parcours de Coltrane. Pour le moment, on reste dans les années 50, mais au tout début cette fois avec la première grande rencontre musicale de Coltrane, Dizzy Gillespie. Le trompettiste lui offre une place dans son orchestre, alors pas de grand solo de saxophone ici, juste une présence, mais il faut bien un début à tout. Deo, le trompettiste Dizzy Gillespie et son groupe en mars 1951. Il y avait Milt Jackson au vibraphone, Kenny Burrell à la guitare, John Coltrane au saxophone, bien sûr, Percy Heath à la basse, Kansas Fields à la batterie. Le trio est une composition du percussionniste cubain Chano Pozzo, l'un de ceux qui, avec Candido, Mongo Santamaria, ont ouvert la voie au jazz afro-cubain, une musique qui prend ses racines à New York à la fin des années 40 et qui va connaître un grand succès, avec 1000 développements jusqu'à nos jours entre La Havane, Puerto Rico et New York, rebaptisé opportunément Nueva York. Sur ce titre, si vous avez prêté l'oreille, vous avez entendu le saxophone de Coltrane dans le fond. Je disais bien sûr John Coltrane tout à l'heure, mais c'était pas si évident de l'entendre. C'est l'un de ses tout premiers enregistrements. Il n'a pas encore tout à fait la place du soliste qu'il va devenir, comme c'est le cas ici pour le vibraphoniste Milt Jackson, qui réalise un solo d'anthologie. Gillespie, c'est la première grande rencontre musicale de Coltrane, une chance, car le saxophoniste recueille la bonne parole du bebop à la source, le trompettiste étant l'un de ses créateurs. En parallèle, Gillespie ouvre d'autres portes et cette ouverture musicale va se révéler féconde pour Coltrane, fasciné par les musiques d'autres continents. Ainsi, de Cuba, Coltrane emprunte aussi Afro-Blue, l'un de ses thèmes fétiches, composé par Mongo Santamaria, et bebop d'un côté, Cuba de l'autre, la boucle est bouclée avec Gillespie, puisque sur l'autre face de ce Tintin Deo, un autre de ses titres, Burke's Works, repris ici quelques années plus tard par le quintet du pianiste Red Garland. Burke's Works, le quintet du pianiste Red Garland, Donald Byrd à la trompette, Coltrane au saxophone ténor, George Joyner et à la basse et Art Taylor à la batterie. C'est une reprise d'un titre de Gillespie, Burke's étant le surnom du trompettiste, et c'est un extrait de l'album Soul Junction enregistré en novembre 1957 pour le label Prestige, un disque qui fait partie d'une série de quatre crédités à Red Garland et à laquelle Coltrane apporte son concours. Une musique typique du style hard bop, dans la veine de celle d'Ora Silver, un autre pianiste dont on a parlé cette année dans cette émission, et qui fait partie des leaders de ce mouvement. Alors Red Garland et Coltrane ont très souvent joué ensemble, en particulier chez Miles Davis, chez qui ils étaient tous les deux employés, et le pianiste fait partie de cette petite bande de musiciens qui va permettre à Coltrane de développer tout son art. Un art dans lequel le piano tient une place éminente. On va pouvoir s'en rendre compte avec quelques bons extraits au cours de cette émission. Mais auparavant, et puisque nous étions en 1951 avec Gillespie, je voudrais remonter à une époque plus lointaine encore avec une chanson qui a certainement beaucoup compté pour le saxophoniste puisque c'est un titre qu'il apprend à jouer à la clarinette. Il a seulement 12 ou 13 ans et ça s'appelle « Blue Orchids ».
What a sweet surprise, 'cause when you looked at me, it was plain to see, blue orchids only bloom in your eyes.
Radio Campus Grenoble 90.8, c'était Blue Orchids en 1939. L'orchestre de Benny Goodman, la charmante voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Louise Tobin. Son nom est totalement oublié aujourd'hui, mais elle avait eu du succès avec un titre devenu un grand standard du jazz, I Didn't Know What Time It Was. Louise Tobin est décédée l'an dernier. Elle avait 104 ans, une arrière-grand-mère du jazz. Coltrane en a seulement 12 ou 13 lorsqu'il apprend ce morceau à la clarinette. C'est l'instrument qu'il choisit après avoir essayé le saxhorn alto, une sorte de petit tuba qu'on rencontrait parfois dans les orchestres. Dans les années 30, la clarinette est un instrument majeur du jazz, et encore pour un certain temps, et Benny Goodman en est l'un des meilleurs représentants. Coltrane passe ensuite au saxophone pour une raison simple, il veut faire comme son héros de l'époque, Lester Young. Le saxophoniste domine la scène, il inspire tous les grands ténors du bop, Dexter Gordon, Wardell Gray, Sonny Stitt, Stan Getz, et Coltrane n'y échappe pas, en particulier parce qu'il voue un culte aux ballades romantiques, on en a parlé et on en a écouté dans l'épisode précédent. Alors j'évoquais « I did not know what time it was », ce standard repris de nombreuses fois, et l'une des meilleures versions en a été donnée par un pianiste oublié lui aussi, c'est Sonny Clark, que je vous propose d'entendre à présent. On retrouve Coltrane pour l'occasion sur un autre standard, « With a song in my heart ». Thank you. The Song in My Heart, interprété par le sextet du pianiste Sonny Clark. C'est un extrait de l'album Sonny Scribb, sorti chez Blue Note le 1er septembre 1957. La composition originale est de Richard Rodgers. Elle est tirée de la comédie musicale Spring is Here en 1929. Ce sont les chronologies classiques de l'époque. Une chanson pour Broadway, écrite dans les années 20 et 30. Elle passe ensuite dans le répertoire du jazz et on la retrouve sur les grands albums d'un autre âge d'or, la fin des années 50. Sonny Clark, c'est un pianiste de génie, assez méconnu, disparu très jeune, à l'âge de 31 ans. Il a débuté avec le saxophoniste Wardell Gray, l'un des ténors du swing et du bop de la période précédente. Et on le retrouve un peu plus tard à Paris avec le guitariste Jim Iranet, un autre musicien injustement méconnu. De retour à New York en 57, Clark devient l'un des pianistes qui compte pour le label Blue Note. Tous ses disques sont de grandes réalisations et son style, très vif, reconnaissable entre mille, a influencé beaucoup de pianistes. Il tombe ensuite dans l'oubli après sa mort, mais on le redécouvre dans les années 90 lorsque Blue Note réédite certains de ses albums. Sur Sonny Scribb, il est accompagné de Donald Byrd à la trompette, il y a Coltrane au saxophone, bien sûr, il y a le tromboniste Curtis Fuller, Paul Chambers à la basse, Art Taylor à la batterie. Et tout ce petit monde se connaît bien. Cette séance datée du 1er septembre 57 est une grande réussite. Le producteur Alfred Lion chez Blue Note ne s'y trompe pas. Il propose alors à Coltrane de diriger une nouvelle session, lors de laquelle pour la première fois il peut lui-même choisir ses musiciens. Et deux semaines plus tard, le 15 septembre, il enregistre les titres qui feront son Blue Train, que tous les coltranophiles connaissent sur le bout des oreilles, qui est considéré comme son premier vrai album solo. Alors sur ce disque, on retrouve une autre chanson de Richard Rodgers, I'm Old Fashioned, traduction « Je suis vieux jeu ». Et c'est vrai, il aime ses mélodies un peu dans ce goût-là, comme par exemple sur ce titre, « On a Misty Night ». Thank you. On a Misty Night, le pianiste Tad Dameron et John Coltrane, ils sont accompagnés de John Simons à la basse et Philly Joe Jones est à la batterie. Extrait de l'album Mating Call, enregistré en 1956, la composition est de Dameron, un autre pianiste important dans le parcours de Coltrane, le genre qui lui a permis de s'épanouir, a-t-on dit. Illustration parfaite sur ce titre qui commence sur une jolie petite mélodie, facile à retenir, bien dans les goûts de Coltrane, et puis de façon surprenante, on peut entendre toute la puissance du son et de l'expression de son saxophone. On a Misty Night est un titre un peu oublié de cette période décisive dans le parcours de Coltrane, mais qui est peut-être l'une de ses plus belles réalisations. Alors Dameron était un pianiste de la période bop, très inventif, inclassable, et qui demeure aujourd'hui peu écouté. Raison de plus pour passer cet extrait ce soir, car cet album avec Coltrane, Mating Call, un essentiel de cette période un peu floue du saxophoniste. On y retrouve d'ailleurs Soul Train, une composition de Dameron qui donne son nom à un autre disque incontournable du saxophoniste, Patience. Ce sera pour l'épisode suivant, soyez au rendez-vous. Une période un peu floue, je disais, mais qu'on n'a pas fini d'explorer, lors de laquelle le saxophoniste enregistre avec beaucoup de monde, des musiciens oubliés comme Sonny Clarke et d'autres très connus comme Sonny Rollins ou Thelonious Monk. Mais pour le moment, je vous propose à nouveau de faire un saut dans le temps avec un morceau très ancien, l'un des premiers que Coltrane ait joué. Ça s'appelle Margie.
Thank you.
Expression Jazz Campus Grenoble 90.8, spécial John Coltrane, c'était Margie, l'un des morceaux favoris du saxophoniste lorsqu'il a commencé à faire de la musique à la fin des années 30. C'était une chanson populaire, souvent interprétée par des musiciens aussi différents que Louis Armstrong, Django Reinhardt et même plus tard Ray Barretto, le genre de morceau un peu mélancolique qui forge les goûts du jeune Coltrane et qui a sans doute beaucoup compté dans l'élaboration de son répertoire pendant ces années 56-58. Alors durant l'été puis à l'hiver 58 justement, Coltrane réalise deux séances importantes pour le label Prestige. C'est Bob Weinstock qui dirige les opérations. Et il faut bien citer son nom, il a eu un rôle déterminant dans la carrière de Coltrane, mais aussi de Miles, Monk, Rollins et j'en passe. Weinstock réunit les titres de ces deux séances sur un disque, Stardust. Stardust, c'est le standard des standards avec, dit-on, pas moins de 1500 interprétations différentes. Coltrane reprend le titre, qui ouvre l'album, mais c'est le suivant qui retient encore davantage l'attention et c'est un autre standard, Time After Time. Thank you. Time After Time, 11 juillet 1958, une ballade coltranienne parmi tant d'autres, mais le saxophoniste est à présent en pleine possession de ses moyens, et son pianiste, c'est à nouveau Red Garland, il livre l'un de ses plus beaux solos de la période, on n'allait pas passer à côté de ça, puisque ce numéro qui s'achève faisait la part belle à certains des grands pianistes qui ont accompagné Coltrane dans cette période que je vous propose de continuer à découvrir le mois prochain. Alors avec eux sur ce titre, Paul Chambers à la basse et le batteur Jimmy Cobb qui entame une collaboration avec Coltrane, tous les trois se retrouveront à nouveau chez Miles Davis quelques mois plus tard pour enregistrer Kind of Blue. On va conclure ce numéro d'Expression Jazz avec un extrait d'un disque de Coltrane infiniment moins célèbre que Kind of Blue, mais que j'aime particulièrement, et c'est Dakar. Ce n'est pas tout à fait un album de Coltrane, quoique il n'est pas leader lors de ses sessions pour Prestige. On est encore au printemps 1957, à quelques semaines seulement, de la collaboration avec Thelonious Monk, le grand tournant dans le parcours de Coltrane. Eh bien Dakar, c'est donc juste avant cette rencontre. Coltrane est aux côtés de deux saxophonistes, ce sont des barytons. Il y a Pepper Adams, il y a Cecil Penn pour un déluge de sax tout au long de l'album. Ils sont accompagnés de Mal Waldron, autre pianiste important pour Coltrane, Doug Watkins à la basse et c'est à nouveau Art Taylor à la batterie. Dakar est un disque formidable, étonnant, qui sort une première fois sur un format 16 tours, un format complètement oublié, et puis la maison de disques l'oublie elle aussi un long moment pour le ressortir opportunément en 1963 lorsque Coltrane devient célèbre. L'extrait que j'ai choisi, Route 4, la route numéro 4, est l'une des nombreuses empruntées par le saxophoniste. Je vous donne rendez-vous donc vendredi 1er septembre pour continuer nous aussi à les explorer. Ce sera un troisième et dernier épisode de ce Coltrane avant Coltrane. Bonne soirée sur Campus. I'm
Mm-hmm.